ça. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Moudimaï, au Kata Oriental. J'ai réfuté totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre Radio Capi qui vous propose parole aux auditeurs, votre magazine d'échange et de partage. Dans une déclaration publiée le 2 février au Sénégal, la secrétaire d'État au développement international annonce un appui important du Royaume-Uni pour améliorer la qualité de l'éducation en Afrique subsaharienne et dont la RDC. Cet appui consiste à maintenir 880 000 enfants à l'école chaque année, former 170 000 enseignants, construire 2400 nouvelles salles de classe et distribuer plus de 20 millions de nouveaux manuels scolaires. Quel regard portez-vous sur cette initiative? Rejoignez-nous au 081 890 49 69 pour vos interventions en direct. Le débat s'étient également sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Tati Mapoukou assure la réalisation de ce magazine, mise en onde par Willem Lungamba. Et Pierrot Elameji vous le présente sous la supervision de Martin Sebujango. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot Elameji.
Et pour parler de cette initiative, quel pourrait être son impact sur le système éducatif congolais, nous avons associé à cet échange M. Nsingi Pouloul Servo. Vous êtes opérateur de l'éducation et promoteur d'école. Bonjour.
Bonjour, M. Pierrot.
Et vous, en tant que promoteur d'école, vous travaillez dans le système éducatif. Comment jugez-vous, quel regard portez-vous sur cette initiative du Royaume-Uni pour appuyer les secteurs éducatifs en Afrique, en RDC particulièrement?
C'est une joie pour nous, c'est à saluer. Nous ne pouvons que dire merci au Royaume-Uni qui pense à nous ajouter un plus. C'est pourquoi je demanderai au gouvernement congolais de bien entretenir les relations avec l'extérieur, la diplomatie. Ceci pourrait faire en sorte que les pays se développent. Parce que vous devez savoir la chanson que le pays Congo, un pays potentiellement riche en minerais, mais depuis la nuit des temps, le peuple reste pauvre. Ce qui explique directement que la richesse d'un pays n'est pas mesurable par rapport aux ressources naturelles, mais par rapport plutôt à la matière grise qui est la formation. C'est pourquoi nous devons revoir ce que nous avons déjà pour que l'appui que le Royaume-Uni va nous amener nous serve. Sinon, on risque d'être des verres pleins. Et ce qu'on va nous amener ne servira à rien.
Et quand vous dites qu'il faut revoir ce que nous avons, cela veut dire quoi? Il faut revoir le système éducatif congolais.
Voilà. C'est-à-dire que l'enseignement d'abord a pour but d'apprendre à l'enfant la bonne manière et les principes. La bonne manière, c'est la façon d'être. Les principes, c'est les domaines. Raison pour laquelle, quand vous voyez les paramètres de l'enseignement, c'est quoi? Un enseignant, les programmes et l'apprenant. Ces trois éléments constituent les paramètres de l'enseignement. Et vous allez voir maintenant le troisième point, l'objectif de l'enseignement. C'est former. Deuxièmement, résoudre les problèmes de la cité. Et troisièmement, faire des recherches. Vous verrez maintenant qu'au quatrième point, l'enseignement est divisé. Pour parvenir à cela, on nous parle de l'enseignement primaire qui a pour objectif d'apprendre l'enfant à écrire, à lire et à calculer. L'enseignement secondaire, à son tour, apprendre à l'élève à maîtriser un domaine bien défini. Quant à l'enseignement supérieur et universitaire, vous convenez avec moi avec les deux cycles, le graduat et la licence. Le graduat sert à rendre l'étudiant spécialiste dans son domaine. Et la licence prépare l'étudiant à la recherche. Maintenant, messieurs les journalistes, chers auditeurs, vous allez comprendre que nous avons hérité un programme de la Belgique. Depuis l'époque coloniale, nous sommes dans un système de la Belgique. Or, moi et vous, nous savons que la Belgique, du point de vue technologique, il n'y a aucune voiture fabriquée par des Belges. Aucun téléphone cellulaire fabriqué par des Belges. Aucun téléviseur fabriqué par des Belges. Est-ce que ce programme doit rester comme la Bible inchangeable? Quand on fait les états-majors de l'enseignement, il pense à quoi? Je ne sais pas pourquoi on nous évite, mais sinon, moi je salue l'initiative du Royaume-Uni, qui veut nous approcher pour nous amener un plus, parce que les points les plus importants, il a dit, il va former 2400 enseignants, ça c'est fabuleux. Et encore, les manuels qu'il va apporter, parce que c'est le combat du nouveau ministre. Le nouveau ministre qui est venu, Gaston Moussemenian, quand il est arrivé, il est en train de prendre contact sur les milieux pour voir de quoi il s'agit, quels sont les problèmes du secteur de l'éducation nationale dans notre pays. Raison pour laquelle nous avons quitté des 3 provinces éducationnelles, par exemple pour le cas de Kinshasa, en 4 provinces éducationnelles. Tout ça, c'est pour approcher de plus en plus mieux les secteurs et comprendre de quoi il s'agit. Cela s'ajoute encore avec les sous-provinces qu'il est en train de placer. C'est pour amener le combat des ministres qui est en place. Pour qu'il arrive à atteindre l'objectif, il a besoin de l'assistance. Il a besoin de l'assistance et cette assistance est beaucoup plus problématique au niveau de la formation de l'enseignant et au niveau du manuel. Parce qu'aujourd'hui, s'agissant de l'évaluation, nous devons nous dire la vérité. Moi, je suis promoteur d'école.
Alors, on va revenir. Oui, monsieur Singhi Pouloulou, on va revenir sur cette question. Mais vous avez soulevé assez d'éléments importants. Vous estimez que le système éducatif tel qu'il nous a été légué par la Belgique, qu'il faut carrément le revoir. Vous avez évoqué d'exemples sur le plan technologique où se trouvent aujourd'hui des avions, des voitures, des téléphones, des congélateurs, des téléviseurs fabriqués en Belgique. C'est que pour vous, il faut que le système soit innové pour qu'il apporte des solutions auprès de la communauté. Mais on va revenir à vous, le temps d'écouter les auditeurs. Nous avons Maître Gervais qui est à Calémie. Gervais, merci de nous avoir rejoints à ce niveau du débat. Bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à monsieur l'invité, bonjour à tous les auditeurs qui sont en train de nous suivre en ce moment.
On vous écoute.
Donc ça va, comme je l'ai dit au début, dans mon commentaire. Allô?
Oui, allez-y, on vous écoute, Gervais.
Ok, ça va. Donc nous avons salué cette mesure, c'est une mesure vraiment à saluer, mais dans le cas de sujet, il est d'une impérieuse nécessité que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel puisse d'abord respecter et mettre en pratique l'esprit et la lettre de l'alinéa 4e de l'article 43 de notre Constitution de 2006, ce qui stipule l'enseignement
primaire vous éloigner
est obligatoire et gratuit dans les établissements publics qui aujourd'hui demeure toujours une simple chanson au quotidien. Ensuite, que la volonté manifeste soit le point de départ de toute réalisation, parce qu'on ne peut jamais avoir de meilleures infrastructures scolaires tant que la vie ou la sécurité sociale des enseignants soit encore au rabais, surtout nos enseignants, le cas de nos enseignants, donc nouvelle unité communément appelée NI, les non-payés communément NP, les métiers d'enseignement étaient métiers nobles. Permettez un peu cette déroulement que nous avions mise là-dessus. Parce que c'est pas une mince affaire, s'il faut le dire. Le ventre crée la pointe dorée. Quand un enseignant donc, donne cours en étant affamé, tout le reste ne sera pas bien à l'aise. Aussi améliorer la condition de vie des enseignants. Et enfin, nous aimerions un peu appeler le gouvernement congolais d'accompagner sans relâche le ministre de l'enseignement primaire et secondaire dans toutes les démarches possibles pour le bien-être des citoyens congolais.
Merci,
parce que si vous revenez, donc, nous allons aussi, donc, il faut, c'est une question aussi de majorer, donc, majorer, augmenter le salaire des enseignants, mécaniser les autres. Et donc, on peut construire aujourd'hui, c'est bien beau. Maintenant, les encadrés seront venus d'où? Si nous lisons aussi l'esprit de la lettre de l'article 44, toujours de la Constitution de 2006, il est dit que l'éradication de l'analphabétisme est un devoir national pour la réalisation duquel le gouvernement doit élaborer un programme spécifique. Et si nous voyons un peu la base de la matière, nous allons à l'article 42 jusqu'à 45. Prenons aussi l'article donc 45. Si nous allons à l'alinéa 4e. Il est bien dit, donc à l'alinéa 5e, il est bien dit que les pouvoirs publics ont le devoir d'assurer la diffusion et l'enseignement de la Constitution, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que de toutes les conventions régionales et internationales relatives aux droits de l'homme et au droit international humanitaire d'Imar. Je sais qu'il y a quelque part où l'on demande aussi la préservation aussi des droits de l'homme.
C'est-à-dire que là, il faut ouvrir un peu, oui, Gervais, il faut, l'enseignement d'une manière globale, permettre à ce que beaucoup de choses soient considérées. Mais vous avez insisté beaucoup sur la question de la gratuité et l'enseignement dans les écoles publiques, comme ça a été, c'est prévu dans la Constitution, ça a été annoncé. En quoi consiste cette gratuité? On a toujours assez des problèmes pour comprendre comment ça se passe sur le terrain. Mais il faudrait aussi s'occuper plus de la sécurité sociale des enseignants, parce que si on peut former, on peut apporter des manuels et que les enseignants ne sont pas assez assurés, ça sera difficile que l'enseignement soit amélioré. Merci beaucoup Gervais, ici à Kinshasa, c'est Christian qui avec qui nous sommes en ligne. Christian, bonjour.
Bonjour Pierrot et bonjour à tous les auditeurs de la radio Kapi.
On vous écoute Christian.
Merci Pierrot pour la parole. Tout d'abord, je tiens d'abord à saluer cette initiative, elle est combien louable. Mais il faut noter qu'il y a beaucoup de déceptions dans le peuple de pays africains, puisque ces derniers enregistrent encore et encore l'œsophilie, une paupérisation réelle. Mais, en dépit de cela, beaucoup des éléments entrent justement en connexion, ou en connexion justement, dans ce sens que ces avantages, il serait vraiment naïf de penser que le bien-être du peuple congolais puisse être obtenu sans faire appel à la conscience nationale et au civisme. Dans ce sens que bon nombre de pays, bon nombre de peuples pourraient justement améliorer leur niveau de vie si seulement les développements dépendaient aux aides humanitaires, à la richesse du sol, du sous-sol, à la formation à l'étranger de ces élites ou à la possession des diplômes. Nous pouvons justement donner un exemple par rapport à l'actuelle classe politique. Nombreux sont ceux-là qui ont fait des études à l'étranger, en Europe. Mais est-ce à l'ère actuelle? Ils sont responsables de leur... Ils sont conscients de leur responsabilité? Je dirais non. D'où l'adage de Joseph Kizerbo qui dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme et du corps. Donc, il va falloir maintenant, en dehors de ces aides-là, il faut que le gouvernement ait un programme national afin de transformer l'homme. Le chef de l'État l'a dit, qu'il n'a pas réussi à transformer l'homme, que l'homme veillera l'homme congolais. C'est maintenant qu'il faut le faire. Il ne faut plus y attendre. C'est maintenant qu'il faut le faire afin d'atteindre justement l'émergence à l'horizon 2030 ou encore à l'horizon 2050 pour que nous ne soyons pas justement un peuple qui sera un peuple figurant devant l'histoire. Mais nous devons être justement des participants et participer massivement et activement afin que le monde comprenne que la RDC ne bénéficie pas seulement des aides, mais contribue aussi à l'amélioration, tant soit peu, du social, tant de ce peuple qui est de la sous-région.
Merci beaucoup, Christian. Vous estimez que l'éducation doit être tournée vers la transformation. C'est pourquoi notre invité estimait qu'il fallait qu'on peut complètement revoir ces systèmes éducatifs belges que nous avons. Et vous estimez aussi qu'il faut, malgré les appuis, on peut construire des écoles, on peut former les enseignants, on peut maintenir les enfants à l'école comme souhaite le Royaume-Uni dans cet appui en Afrique. Mais il faut que le contenu soit orienté vers la transformation de Congolais. Claude, vous êtes à Likasi. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour.
Beaucoup, M. Pierrot. Les sujets m'intéressent un peu plus parce que moi, je suis pratiquement dans ces secteurs-là.
OK.
En fait, les manuels, ça, c'est peut-être une mise au point et que je voulais faire un peu par rapport au sujet. Le tas congolais, n'est-ce pas, dans un espace de pratiquement 10 à 15 ans, a multiplié beaucoup de manuels. Hein, je peux citer à nous les maths, par exemple, pour ce qui est du primaire. À nous les maths. À nous l'école. Toujours des maths, hein? À nous l'école. Aujourd'hui, les maths, champions, à la fontaine, Genovic. Donc, tous ces livres-là ont été distribués par l'État lui-même dans l'espace de, après 2-3 ans, l'autre livre vient remplacer ce dernier. 2-3 ans, l'autre livre vient de remplacer. Et lorsque ces nouveaux livres sont donnés par, n'est-ce pas, le gouvernement congolais, on vous dit automatiquement d'abandonner les anciens livres et de n'utiliser que celui-ci. C'est l'unique, en tout cas, c'est le meilleur. Il va améliorer la qualité de l'enseignement. Et quelques mois, quelques années après, on le change. Et moi, j'ai déjà constaté, c'est souvent quand il y a un nouveau ministre, que vous voyez, on essaie un peu de changer. Quand il y a quelque chose là qui bouge, on essaie un peu de changer. Je dis ceci, et lorsqu'on donne les manuels, parce que présentement, nous avons à La Fontaine, au niveau des classes, des petites classes, et aujourd'hui, les maths en 5e et 6e primaire. Ces livres-là, nous n'avons même pas encore, nous ne les avons même pas encore maîtrisés. Et on nous les exige. Alors qu'il y a des anciens livres que vous avez utilisés, vous aussi, quand vous étiez à l'école, tels que Calcul 1, Calcul 2, Calcul 6, les anciens livres qu'on appelait BEC. Là, on dit de les mettre à côté. Mais revenons encore sur ces livres. Lorsqu'on nous les donne, mais qu'est-ce que nous constatons? Il faut qu'on subisse une formation. Mmh. Et la fameuse formation, je sais que les donateurs, ils mettent même les frais de formation là et inclus. Mais on nous exige de payer encore des frais pour nous, les écoles. Nous devons payer pour participer à la formation. Nous devons payer pour prendre ces fameux livres-là qu'on donne par le gouvernement congolais. On vous demande les frais de manutention, on vous demande, non, on ne dépasse pas tel nombre, il faut ajouter de l'argent. Et quelques jours après, vous voyez ces livres sur des marchés ici, et comme à Likati en ville, si vous allez à Lubumbashi, vous les voyez, on les vend à 1000 francs, tout ça, à même les sols, sous le regard, n'est-ce pas, passif des autorités congolaises. Je continue encore le programme national même en question que nous utilisons. Mais ça change aussi. Nous avons le programme de 2000, nous avons le programme de 2004, nous avons le programme de 2001. Alors, à chaque fois qu'un nouveau programme sort, on vous dit que l'autre est diabolique, il faut utiliser seulement celui-ci, il faut même le jeter. Quand on vient dans les écoles, on vous fait même des problèmes si vous avez des anciens livres. Mais c'est ainsi qu'on se dit que derrière tout ça, tout ce qu'on parle là, moi je crois que c'est à la recherche seulement de l'argent, et à mettre dans les poches des gens qui utilisent les secteurs de l'enseignement pour faire les commerces. Regardez les bulletins que nous avons actuellement. C'est un bulletin qui coûte 1000 francs dans les écoles. Et on doit acheter ces bulletins. Si vous n'achetez pas, on vient contrôler. Bon, finalement, au-delà de supporter les enseignants, on vous vend même le livre, même quand l'État congolais distribue les fameux livres. Il vous les vend. Ils vous imposent des frais pour subir la formation. Et vous savez que la plupart, n'est-ce pas, des écoles qui sont dans des centres-villes actuellement, la plupart, si pas 80-90%, ce sont des écoles privées. C'est là où il y a une tracasserie terrible, si bien que la plupart des parents mettent leurs enfants dans les écoles privées parce qu'on essaie un peu de voir qu'il y a un peu de rigueur, parce que les enseignants...
Alors, ça dit que là, globalement, Claude, oui, globalement, Claude, en parlant de ces changements intempestifs des manuels, à chaque 2-3 ans, les changer, laisser tomber, revenir à d'autres, ça crée aussi, si on peut dire, il n'y a pas une cohésion, une stabilité de matière donnée d'une génération à une autre. On se rappelle quand même qu'il y avait des années où on pouvait bien repérer les manuels pour sur toute une génération. Et si on doit changer les livres de mathématiques, de français chaque 2-3 ans, et abandonner les anciens, revenir avec lequel, adapter les enseignants, c'est ça aussi cette question que nous avions posée à notre invité tout à l'heure sur la révision, la refonte de notre système, de savoir quelle est la vision, où est-ce qu'on veut aller avec le système éducatif. Merci beaucoup Claude. Franck, vous êtes à Vienne, merci de nous avoir rejoint. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour mon ami Pierrot, bonjour à l'invité, bonjour aux amis qui se sont déjà exprimés et à tous ceux qui vont s'exprimer.
On vous écoute.
Oui, merci beaucoup pour le choix de cette thématique parce que moi personnellement ça m'a toujours intéressé depuis le début comme vous le savez. Et quand on suit qu'il y a des aides au développement dans le secteur de l'éducation, ça ne peut que nous réjouir parce que ça peut venir... nous faciliter à résoudre une ou l'autre équation dans ce domaine-là. Mais M. Pierrot, je crois que c'est mieux qu'on rappelle aussi certains dossiers qui ont trait avec le même projet. Entre 2012 et 2015, avec lors de la primature de M. Matata et avec pour ministre de l'EPSP, M. Mater Mwanku, que je salue en passant, il est passé plusieurs fois sur vos antennes, au studio comme invité, pour défendre le projet de construction de 5000 écoles en 5 ans à raison de 1000 écoles par an. Et je crois que par rapport à la thématique d'aujourd'hui, ça aurait été mieux qu'on nous dise d'abord combien d'écoles avaient effectivement été construites et dans quel milieu par rapport à ces nombres qui avaient été avancés. Parce que les financements avaient été accordés et je crois qu'il y a aussi droit de faire voir aux citoyens ce qu'on a fait de tout ce qu'on a reçu des autres. Ça, c'est un. Puis de deux, on nous dit maintenant que le gouvernement britannique va encore allouer des fonds pour ça. Mais tant qu'on n'a pas encore la traçabilité de ces premiers projets, je crois que quelque part, on risque de nous plonger dans des confusions parce qu'on ne saura même pas dans quel milieu les écoles ont été construites, dans quel école les infrastructures scolaires ont été réhabilitées par rapport au premier fonds et par rapport au deuxième fonds. Ça, c'est un des points de rappel. Puis, par rapport au domaine de l'enseignement même, je m'intéresse trop à l'enseignement parce que je suis en train de faire construire pour le moment une école ou des écoles, des bâtiments d'école dans un milieu où il n'y a vraiment rien. Donc, ça m'a toujours intéressé et ça me préoccupe comme pasteur. Mais je trouve que on accorde trop d'attention seulement par rapport à un volet. On aimerait que les écoles aient de très bons bâtiments, c'est vrai. On aimerait que l'école soit réhabilitée, c'est vrai. On aimerait que les bibliothèques soient riches en livres, en manuels. C'est tout à fait normal, là on ne va pas discuter. Mais quelque part, moi ça me préoccupe de voir la situation des enseignants. Comment allons-nous atteindre tous ces objectifs de performance tant que le personnel enseignant est encore soumis à un salaire médiocre et il y a même des enseignants qui ne sont pas mécanisés. Et on va demander à un enseignant de former des enfants alors que lui-même ne sait pas envoyer ses enfants à l'école. Vous pensez que c'est vraiment facile? On va demander à un enseignant de bien travailler alors qu'il sait qu'à la fin du mois, il ne sera pas rémunéré. Monsieur Pierrot, je crois que c'est mieux de nous parler de toutes ces aides. Mais l'État congolais doit se remettre en place, assumer, parce que les domaines de l'éducation, son financement, ne doit pas être un problème des aides. Parce que quand un pays ne sait pas former ses citoyens, quand un pays ne pense pas, ne met pas le paquet conséquent, je dis bien conséquent, pour la formation intégrale de ses citoyens, ce pays est déjà à une disparition. Et les penseurs qui l'ont déjà dit que dans un pays, si vous voulez vraiment tout détruire, il faut commencer par l'éducation.
Oui.
Et personnellement, je me rends compte que la stratégie est en place, on est en train de détruire l'éducation du cycle maternel jusqu'à l'université. Nous autres, quand on allait à l'école, on était capable de nous défendre par rapport au niveau de scolarité. On était à l'école primaire, on nous faisait des exercices de lecture, de calcul, il y avait des concours, des compétitions au niveau des écoles pour chercher à promouvoir un peu le niveau. Au niveau des collèges, je me souviens, à Bandundu, on nous a fait organiser des concours, des dictées à l'Alliance franco-zéroise à l'époque. Et on nous mettait des élèves à côté, nos formateurs à côté. Donc il y avait quand même cet esprit de compétitivité. À l'université, il y en avait, mais de nos jours, ça donne à penser.
Alors, c'est pourquoi, en disant que, en souhaitant, bien sûr, qu'il faut revoir tout, Franck, vous avez estimé qu'il ne faut pas seulement avoir des beaux bâtiments, des livres, tout ça, mais il faut mettre l'enseignant au centre de toutes choses. Mais il faut revoir le système. Vous l'avez dit, les choses ont beaucoup changé aujourd'hui. Il faut quand même l'accepter. Faudrait-il que l'enseignement réponde vraiment aux besoins réels? C'est ce que notre invité va nous dire tout à l'heure, parce qu'il a dit que l'enseignement doit répondre aux problèmes qui se posent dans la société. 081-890-4969, 081-890-4969, c'est le numéro pour intervenir en direct.
Radio Capi aux couleurs du Festival Amani, du vendredi 9 au dimanche 11 février, en direct du collège Mwanga de Goma. Les journaux parlaient de la journée. Et quelques flashs d'informations seront présentées en direct du site du festival. Les émissions comme Parole aux éditeurs, Roundup et Métissage seront également produits le vendredi, samedi et dimanche en direct de la scène de ce festival international de musique. Radio Capi en direct du Festival Amani de Goma pour mieux faire entendre le message de paix.
Voilà, toute l'équipe des paroles aux auditeurs. Disons, une équipe est à Goma, je crois bien, Jir Lungembo et Nico Kalambay, demain à 11h en direct du Festival Amani, paroles aux auditeurs. Et nous revenons ici à Kinshasa. Nous sommes avec vous, ingénieur Sengi Pouloulou, promoteur d'école, opérateur dans le secteur de l'éducation. Vous avez suivi les uns et les autres. Hein. On insiste beaucoup sur l'importance de l'enseignant dans les systèmes éducatifs, mais vous avez aussi évoqué sur le contenu de l'éducation qui doit apporter des solutions dans la communauté. On vous écoute.
Je remercie tous les intervenants. S'agissant du problème de la sécurité de l'enseignant, ça relève de la matière du budget national. Alors, si nous voulons traiter le problème du budget national, on risque d'aller ailleurs. Ce qui nous intéresse, le problème de la République démocratique du Congo est déjà connu sur le mode de gestion. Mais ce que les amis, les frères, mes frères doivent savoir, que les efforts, nous avons connu les problèmes, maintenant nous devons conjuguer les efforts pour aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, je crois que le ministre actuel, il a tout fait pour commencer d'abord à conscientiser les inspecteurs, parce qu'il avait des sessions de formation, des réunions avec les inspecteurs, sur la culture de bon sens. Et de deux, vous savez qu'avec multiples difficultés, mais il tient toujours, il n'a pas modifié le programme national, le calendrier scolaire. Ce qui prouve que le ministre actuel est dans la voie de bon sens pour nous amener vers un développement. Maintenant, c'est à nous de l'accompagner. Comme l'aide que le Royaume-Uni vient de nous accorder, c'est à nous maintenant, comme vous êtes en train de le faire, de contester tout le monde pour que cela soit appliqué à bon escient. Moi, j'estime que, au jour d'aujourd'hui, ce qui nous importe, c'est de voir par rapport au programme national, parce que j'avais bien dit que l'enseignement a trois paramètres. L'enseignant, les programmes et l'apprenant. Vous pouvez payer un bon salaire aux enseignants, mais c'est pour avoir quel résultat? On vous dit que le Congo, l'enseignant est mal payé. Mais si vous allez en Congo Brazzaville, ils sont quand même bien payés par rapport au Congo Kinshasa. Mais ils produisent quoi? Ils ont quel programme? Si vous allez en Angola, ils sont bien payés, les enseignants en Angola sont bien payés par rapport aux enseignants en République démocratique du Congo. Mais ils produisent quoi? Plus loin encore, je prends l'exemple des professeurs d'université. Chacun a au moins le prix de 2 000 $. Ils produisent quoi? Par rapport aux 50 $ que touchent les enseignants de l'école primaire et secondaire. Maintenant, les professeurs d'université touchent 2 000 $. Ils produisent quoi? Vous verrez que il n'y a pas que l'argent qui peut résoudre les problèmes, mais les programmes. Rassurez-vous, les programmes est un élément primordial. C'est pourquoi j'invite tout le monde que les programmes des Anglais, comme ils vont former 2400 enseignants, c'est dans cette formation-là que nous allons comparer par rapport à ce que nous avons et ce qu'eux vont nous amener, leur système, quel est le système le plus fiable, le plus meilleur, qui peut nous permettre de quitter à un état de consommateur, à un état de
tradition, oui, ingénieur Sengi, rappelons que le projet du Royaume-Uni, c'est de former 170 000 enseignants en Afrique. Hein. Je crois que la RDC pourra peut-être bénéficier des 6 000, 4 000, 3 000 enseignants, on ne sait pas, mais c'est former totalement 170 000 enseignants. Est-ce que pensez-vous aujourd'hui que si le pourcentage élevé d'enseignants aujourd'hui peuvent être formés par les Britanniques, y a-t-il un avantage aujourd'hui dans les contenus par rapport au système belge que vous avez décrié tout à l'heure?
C'est-à-dire que si les Américains, parce que vous devez savoir une chose, les maîtres ne peuvent pas donner toutes les formules à son disciple, sinon les disciples pourraient nous dépasser. Nous sommes dans un pays où nous avons pratiquement 60 ressources naturelles de minerais utilisées dans le monde entier. Mais nous restons toujours des consommateurs. Alors, si la Belgique, le Royaume-Uni, peut former en nous même 1 000 enseignants, avec un programme qui va nous permettre d'être des traducteurs, des transformateurs, et non rester des consommateurs. Je trouve que ça serait intéressant à notre niveau. Ça serait intéressant à notre niveau. C'est pourquoi je veux que nous comprenions l'importance du programme national. L'importance du programme s'avère primordiale.
Ok.
Donc, c'est pourquoi que si le programme est réhabilité, nous passons du programme belge des consommateurs à un programme de transformateurs, je crois que vous déplorez le travail, il y aura du travail. Parce que vous devez savoir, mes chers auditeurs et Radio Capi, mon frère journaliste, que l'enseignement, c'est un facteur du développement réel. C'est un facteur de création de l'emploi. Quelqu'un qui est formé, même pour vendre au marché, il saura comment vendre. Mais quand les gens ne sont pas formés, il y a un problème. Ne confondez pas. Un auditeur a parlé de beaucoup de gens qui sont au pouvoir, sont des diplômés, sont des porteurs, sont des diplômés, des licenciés, des professeurs, ainsi de suite. Oui, il y a ceci. Il y a porteurs de diplômes et il y a diplômés. La différence est dans la faisabilité. Parce que les études ont pour objectif de faire quitter l'être humain à l'état animal, à l'état conscient. Lorsque quelqu'un licencié, professeur d'université, gradué, diplômé d'État, se comporte comme un animal, il ne faut pas vous étonner, dit simplement que c'est un porteur de diplôme. Parce que vous le savez aujourd'hui, comme je l'ai dit au départ, l'enseignement nous donne deux éléments. Le but, c'est de nous donner deux choses, la bonne manière et les principes. Dans la bonne manière, il n'est pas concevable de voir aujourd'hui un professeur d'université qui ne sait pas être dans la logique des choses. Si vous donnez des bois à un pousse-pousseur à Mumbele, de vous amener là où vous êtes, il viendra chez vous à la maison le soir. Vous avez de payer des dimanches son argent, vous n'avez pas pris son numéro de téléphone et vous ne connaissez pas son lieu d'habitation. Mais par confiance, il viendra déposer vos bois sans en retirer un. Lui qui n'a pas étudié. Alors, comment un professeur d'université, comment un licencié, un gradué, un diplômé, chef de division, directeur, ministre, député, ainsi de suite, qui monnaie les services. Vous allez comprendre que ce sont des gens mal formés. C'est pourquoi j'ai toujours dit, un homme mal formé est plus dangereux qu'un
merci,
fou.
Merci, merci beaucoup.
Alors, cela n'est pas une occasion voilà. Pour dire que nous ne pouvons pas changer le programme, nous ne pouvons pas voir parce que nous avons des intellectuels qu'il ne faut pas arrêter. Non, 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 non. Ce n'est qu'un échantillon. Ils sont minoritaires d'ailleurs. Ceux qui gèrent dans la minorité sont minoritaires. Ce n'est pas notre débat. Mais je veux que nous voyons la réalité de notre programme. Nous merci. Avons un pays potentiellement déclaré riche depuis des siècles. Alors, pour que cette richesse soit réellement vrai, il faut que ça soit traduit. Parce que la grandeur d'une entreprise ne se mérite, ne merci. Se mesure pas par la grandeur de ses bâtiments, mais plutôt par sa caisse.
Merci, merci beaucoup. On va revenir
caisse,
à vous. Oui.
Une caisse bombée certifie que l'entreprise est bonne. Mais un pays comme la République démocratique du Congo, géographiquement espacé, mais qui a un budget de 5 milliards, vous pouvez déjà estimer le niveau de la pauvreté de ces pays-là.
Merci bien beaucoup.
Que ça,
et ça, c'est important.
Et géographiquement,
voilà.
Important.
Vous l'avez dit qu'il faut qu'on passe du système éducatif belge des consommateurs à un autre système qui des transformateurs, des producteurs, et ça, ça passe aussi par les contenus du programme. Ignace, merci d'être avec nous, professeur. Pensez-vous aujourd'hui qu'on doit procéder à des états généraux, qu'on puisse réunir autant des personnes pour discuter autour du programme et que le programme éducatif congolais soit vraiment adapté à apporter des solutions plutôt que rester des éternels consommateurs, comme le disait tout à l'heure notre invité.
Merci pour la question. Je pense que c'est là même que nous devons réfléchir. C'est cela que nous devons réfléchir. Lorsque vous analysez notre programme éducatif aujourd'hui, laissez-moi dire que c'est un programme qui est très lourd. Très lourd. Pourquoi ? Nous donnons un enseignement qui est beaucoup plus généralisé. Au lieu de focaliser sur la spécialisation de la formation que nous devons donner aux jeunes. Il y a peu ici, quelqu'un a initié le programme de l'entrepreneuriat. Mais vous allez constater que cela a sombré. Il y a quelques écoles simplement qui sont en train d'appliquer ce programme-là. Donc je vais simplement dire que les états généraux de l'enseignement sont une nécessité et une urgence. J'ai comme l'impression que nous sommes en train d'appliquer le programme d'autres sociétés, l'Europe en l'occurrence. au lieu de prendre un enseignement adapté aux besoins de notre société. Je voudrais aussi placer un mot sur les conditions sociales. Beaucoup en ont parlé ici. Les conditions sociales de l'enseignant. Hier encore, quand on parlait d'un enseignant, ça faisait la fierté, l'honneur. Mais aujourd'hui, l'enseignant est l'arrivée de tout le monde. Donc il faudrait qu'on réfléchisse, qu'on sache quel type d'enseignant, quel type d'enseigné auquel nous nous attendons pour le développement de notre société. Sinon, nous serons en train d'appliquer les programmes des différentes sociétés et cela ne va pas nous aider à avancer. Quand je parlais de la lourdeur du programme, vous allez constater qu'il y a des filières où il y a trop de leçons, il y a trop de branches et je suis poussé même à dire que certaines branches sont inutiles. On est en train de surcharger le cerveau de celui qui est formé alors qu'on devait focaliser l'attention sur le type qu'on devrait former. Regardez, ici nous sommes dans une province minière. Et quand vous venez, vous ne trouvez pas assez d'écoles qui forment des jeunes qui peuvent travailler dans la mine. Il y a beaucoup de sciences pédagogiques et toute autre filière, alors qu'on devait focaliser l'attention sur la spécialité. Et voilà à peu près ce que moi je vois.
Merci beaucoup, prof Ndala. Vous insistez beaucoup sur la focalisation de la spécialisation. L'enseignement doit être adapté, hein. C'est drôle. On a vu aussi le Kasaï central. Vous avez les territoires des Mweka. Vous avez la moitié de la forêt qui passe par là. Et vous pouvez aller voir autant de ces provinces. On n'a pas une école qui forme les agronomes. On n'a pas une école qui forme le menuisier. C'est ça aussi les paradoxes de notre système. On a beaucoup d'instituts pédagogiques dans un milieu où vous êtes entouré par l'exploitation minière. Pourquoi ne pas avoir des écoles adaptées? Et le système est lourd. Il faut carrément le revoir pour ne pas tomber dans le piège d'appliquer le programme des autres sociétés. Alain, vous êtes en Bandaka. Alors s'il faudrait aujourd'hui adapter le programme pour qu'il réponde exactement aux besoins réels de notre pays, Alain, qu'est-ce qui doit être fait au niveau du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel?
Bon, moi je crois plutôt, bonjour à Radio Capi, bonjour à tout le monde. Moi je crois plutôt que nous devons repenser la politique d'enseignement. Cela ne doit pas se faire au niveau du ministère de l'enseignement, mais plutôt au niveau du gouvernement et pourquoi pas au niveau du Parlement. Parce qu'il y a nécessité, comme les autres que l'on dit, d'adapter notre système d'enseignement par rapport à nos réalités et par rapport à nos visées socio-économiques. Commençons d'abord par l'état des lieux. Quelle est notre capacité d'accueil? Combien de Congolais ont eu l'opportunité d'aller, de suivre le cursus normal? Quelles sont les conditions pour que nous y accédions? On va se rendre compte que plus de 40%, je dirais même plus de 50% n'ont pas eu la chance de suivre le cursus normal. Ce qui fait que, partant de notre considération des systèmes d'enseignement, toutes ces personnes sont exclues du processus ou de cette démarche qui vise à non seulement harmoniser notre point de vue sur la vision que nous avons sur la société, mais aussi de renforcer la productivité de tout un chacun. Si nous prenons le système d'enseignement, le classique, on va se rendre compte que pour terminer ses études, on doit faire 17 ans. Et pourtant, il y a des gens qui ont peut-être des atouts, mais qui n'ont pas eu l'opportunité d'aller à l'école, de finir les cycles primaires, secondaires, humanitaires, jusqu'à aller à l'université. Mais tous ces gens-là n'ont pas la chance d'accéder aussi à l'emploi, parce que la conditionnalité pour accéder à ces genres d'emploi, c'est d'avoir un diplôme. Et pourtant, ils ont la force physique, et ils ont peut-être dedans des talents que la société en a besoin. Moi, j'estime de mon point de vue qu'on doit avoir deux approches. Mmh. Une première approche qui va consister à créer le cadre de conception où tout le monde qui doit y accéder doit avoir une vision sur l'université et d'autre part, envisager l'apprentissage de métiers. À que lorsque vous prenez notre système d'enseignement, vous allez vous rendre compte qu'à la fin des études humanitaires, on donne à l'enfant un diplôme. Ce diplôme veut dire sanctionner sa formation pour qu'il aille à l'université. Mais tous ceux qui échouent, qu'est-ce qu'on en fait? Ils doivent répondre l'année. Mais pourtant, ils peuvent échouer dans 3 ou 4 cours, mais ils doivent répondre toute l'année. Ce qui veut dire, s'il n'a pas le moyen, eh bien, il se décourage, il n'a aucun document. pourquoi ne pas envisager octroyer aux gens qui sont arrivés au niveau des humanités un brevet, par exemple, c'est-à-dire quelqu'un qui a passé le test d'examen d'État, qui est une évaluation sommative, si cette personne échoue tout en réussissant à l'école, eh bien, on peut lui accorder un brevet pour que ce brevet lui permette aussi d'accéder à un type d'emploi qui répond à son profil. Mmh. C'est-à-dire, je voudrais assez que l'on revoie d'abord l'importance que l'on donne au diplôme, que l'on sélectionne les meilleurs parce qu'ils sont formés comme cadres de conception pour qu'ils aillent à l'université. D'autres vont suivre le cursus normal jusqu'au niveau de diplôme d'État ou s'ils n'ont pas le diplôme d'État, ils ont un brevet. Mais aussi ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre ces cursus, qui sont au moins formés quelque part. Parce que lorsque nous formons, par exemple, des gens dans l'élaboration, dans le cantonnage, est-ce qu'ils doivent avoir impérativement un diplôme? Voilà pourquoi je dis l'importance de la formation non formelle s'impose à nous. Nous devons tout faire pour que nous arrivions à promouvoir cette formation pour rattraper tous ceux qui n'ont pas eu la chance
Merci.
De passer par le cursus normal.
Merci.
Le deuxième élément que je voulais mettre en évidence.
Allez-y, rapidement.
Du droit souverain d'un peuple. Et chaque fois que nous tournons vers l'extérieur pour avoir les financements, pour être soutenus dans nos réformes, naturellement, nous risquons d'avoir une formation centrée essentiellement sur la dimension cognitive. Mmh. C'est-à-dire, on nous donne l'information, mais cette information ne peut pas être mise en application tout simplement parce qu'il y a une adéquation. Voilà pourquoi je voudrais que le gouvernement insiste sur sa capacité à financer lui seul le processus de transformation du Congolais pour se garantir effectivement de la qualité et de la liberté de la personne
Merci.
Qui est formée.
Merci, voilà beaucoup, merci beaucoup Alain, parce que vous avez peur que chaque fois que le système éducatif sera financé de l'extérieur, on risque de tomber dans cette peur de propositions, des conceptions, de programmes exactement qui viennent de l'extérieur et qu'on puisse avoir un système qui ne réponde pas aux vrais problèmes. Et c'est pour vous estimez qu'il faut repenser la politique globale de l'enseignement dans notre pays. Pépé, vous êtes à Kisangani, bonjour. Pépé, bonjour. Des petits soucis des lignes avec Pépé. Nous revenons à vous, notre invité Singhi Pouloulou. Vous avez suivi, professeur Ignace a insisté sur cette question de ne pas tomber dans les pièges, d'avoir un programme d'autres sociétés. Alain disait tout à l'heure qu'il faut repenser la politique. Et vous, qui êtes opérateur dans le secteur de l'éducation et promoteur, pensez-vous aujourd'hui que les écoles ont la tâche facile de pouvoir mener à bien la formation et permettre à ce qu'on puisse avoir des enfants qui répondent réellement au vrai problème que nous avons dans notre société aujourd'hui? Là, ce sont des cas pratiques comme vous êtes sur terrain.
Oui, moi je crois que oui. Je vous donne un cas précis chez moi. Je suis de formation ingénieur civil en électrotechnique et licencié en physique appliquée. Je suis promoteur des écoles depuis 2005. En 2008, j'avais constaté que les options techniques, mécaniques par exemple, les programmes nationaux, fait en sorte que de 3e des humanités jusqu'en 6e des humanités, on forme un enfant qui restera toujours agité. C'était un programme où il y a des lacunes. Qu'est-ce que j'avais fait? Comme il s'agit de mécanique générale, j'avais introduit des cours et j'ai écrit au ministre à l'époque, Macaire. Je lui ai écrit. J'ai introduit des cours comme technologie d'automobile et pratique approfondie de la mécanique, métallurgie appliquée. Vous prenez le cours, par exemple, l'option biologie-chimie. Vous allez remarquer que des 3e des humanités en 6e des humanités, on forme l'enfant, mais cet enfant, au finish, il sera soit un biologiste, soit un chimiste, soit un laborantin, soit un infirmier, soit un médecin. Mais dans sa formation, il n'y a pas un cours d'anatomie auquel il peut maîtriser le corps humain. J'ai introduit le cours de l'anatomie et j'ai écrit au ministre. Vous prenez les cours, par exemple, l'option, par exemple, latin philo. Vous avez là deux cours, philosophie et latin seulement. Alors que cette option a été faite dans l'objectif de former les prêtres. Maintenant, si l'enfant termine les études au secondaire, comme vous venez de dire, Alain, que l'enfant n'a pas de moyens, il n'a pas réussi, ou soit il est réussi, mais il n'a pas les moyens d'aller à l'université. Conséquence, il est qui cet enfant-là? Nous avons choisi, Parce qu'il y a un petit chapitre en 5e des humanités qu'on appelle Pouarkia. Nous avons maintenant vu qu'il fallait, associer ce qu'on appelle la procédure. La procédure est la théorie de la communication. J'ai écrit au ministre. C'est-à-dire quoi? À notre niveau, aujourd'hui vous avez évoqué un point intéressant. Si vous remarquez, nous avons des diamants de l'or. Connaissez-vous les noms d'un tailleur de diamants congolais reconnu? Ok. Ça signifie quoi? Nous ne pouvons pas attendre tout du ciel, c'est-à-dire des autres. Mais ce qu'il faut, ce que nous devons faire, c'est la roue est déjà inventée. Que faire pour ne pas aller plus loin? Parce que pour créer un système, il y a des simulations qui doivent avoir lieu. Ces simulations nécessitent des pertes en termes de moyens et de temps. Or, si la roue est déjà inventée chez les autres, vous pouvez copier et modifier. Cela s'appelle comment? C'est ce qu'on dit l'échange technologique. Les sciences culturelles en matière d'éducation et les sciences de technologie. C'est ce que nous n'avons pas. Mm-hmm. C'est ce que nous ne faisons pas. J'avais demandé une fois, quand ils font les états généraux de l'enseignement, mais pourquoi ils ont l'habitude de me fuir? Je ne sais pas. Bon, peut-être qu'ils trouvent d'autres. Mais à ce niveau ici, je conseille le gouvernement congolais. J'ai vu la volonté du nouveau ministre Moussé Ménian, qui est en train de marcher sur la voie réellement du changement, réellement d'améliorer. Moi, je crois qu'avec les ministres ici, s'il a le temps, si on lui laisse le temps, on pourra arriver plus loin. Parce que nous devons faire réellement les échanges en matière d'éducation et des sciences et technologies.
Voilà, on revient à vous. On va revenir à vous rapidement. Il y a aussi Simon qui nous a rejoint. On a eu des petits soucis pour pouvoir les joindre. Simon qui est sur terrain dans l'enseignement. Simon, vous avez suivi le Royaume-Uni qui veut appuyer le secteur éducatif en Afrique, la construction des écoles, la formation des enseignants, ainsi que les manuels scolaires. Nous revenons ici dans notre pays. C'est une initiative pour appuyer la RDC parmi les pays qui pourront bénéficier de cet appui. Et concrètement, comment vous trouvez cette initiative et quel pourrait être son impact d'une manière globale et particulière pour la RDC, Simon? Bonjour.
Oui, bonjour. Je salue tous les auditeurs qui nous écoutent de partout. Merci pour ce cadre d'échange. Et je pense que, conformément à ce que celui qui a précédé a dit, c'est vrai que nous sommes dans un système d'enseignement conçu par les Belges. Or, aujourd'hui, au monde, on sait que le système d'enseignement belge est parmi les plus efficaces du monde. Donc, il y a des options qui ont été créées, pas pour travailler directement après les sixièmes années. Ce sont des options qui préparent les enfants à l'université. À titre exemplatif, la biochimie, littéraire, maths, physique. Là, si vous le faites, c'est pour être préparé aux universités. Par contre, il y avait des options. Dès que vous terminez, on formait les calaques à l'université. Mais le problème ici, c'est le financement pour lequel le ministre s'est bâti et a convaincu les gens pour nous venir en aide. Moi, je pense que si nous voulons vraiment utiliser avec efficience cet argent, on peut cibler les ONG. Je le dis par conviction et par preuve. On peut cibler les ONG. Et l'État ne jouera le rôle que d'orientation et de suivi. Parce qu'avec l'État, on va échouer. Vous savez, depuis lors, on a toujours le budget. Le ministre avait dit que le budget est parti de 6% en 2006 à 18%. Mais sur le plan pratique, rien ne prouve qu'on a atteint 18%. Les salaires sont restés médiocres. La formation des enseignants reste caduque. Et tout ça qu'on sort. Parce que lorsque l'État gère, et puis, il faut voir aussi les taux d'exécution de ces 18%. Vous verrez que les taux d'exécution, c'est 2,1%, 2,3%. C'est-à-dire, avec l'État, on n'aura pas de résultats tels qu'attendus. Parce que si jamais on a ces moyens, ces fonds, et que l'État les gère, les résultats ne se donnait pas, nous serons encore plus ridicules que jamais. Pour preuve, ici au Congo central, par exemple, l'actuel gouverneur, quand il a été élu, il a eu une idée de construire une école technique par chaque territoire, donc les 10 territoires. En public, il a remis 1000 tonnes de 3 mètres JB28, 1000 sacs de ciment à chaque territoire, à chaque administrateur de territoire. 1000 sacs de ciment et 55 000 dollars. 4 ans après, rien n'est fait sur le terrain. Mais si on avait donné cet argent ou ces moyens, par exemple, à la Connect, Caritas, UNICEF, les résultats seraient probables. Mmh.
Alors, oui, s'il vous plaît, Simon, et quand le gouverneur a son élection, ça fait quand même quelques années, vous remettez 1000 tôles, 1000 sacs de ciment, 55 000 dollars, et puis après, rien ne fait, et puis après, quelle est la suite?
Oui, alors, il a, parce que lui, c'est l'argent, c'est l'Assemblée provinciale qui décide. L'Assemblée provinciale a approuvé le projet et il a accepté, le gouverneur a donné. L'Assemblée provinciale devrait passer au contrôle. Et c'est les députés, parce que dans chaque administration du territoire, chaque territoire qui est une circonscription électorale, donc il y a des députés. Et les députés étaient mis en contribution.
Mmh. Oui, mais on sait comment ça se passe dans notre pays, Simon, alors, avec les contrôles parlementaires. Mais il revient quand même au gouverneur, s'il vous plaît, il revient quand même au gouverneur de pouvoir poursuivre et savoir cet argent qu'il a remis aux administrateurs, qu'est-ce que ça fait. Mais rappelons quand même, Simon, parce que vous avez évoqué les cas des zones G, hein, il n'y a pas longtemps, on a fait le débat autour de la décision de la Belgique d'octroyer son aide directement aux zones G sans passer par le gouvernement. Vous savez, et la brouille que cela a provoqué entre le Kinshasa et Bruxelles autour de cette question. Mais vous souhaitez encore que si le Royaume-Uni, dans son appui pour enseigner, former les enseignants, construire les écoles, ainsi que doter les écoles des manuels scolaires, vous estimez qu'il faut aussi passer par les ONG plutôt que par les gouvernements congolais. Merci à Simon. On revient à vous rapidement, ingénieur Singi Pouloulou, pour conclure cet échange. On a suivi les uns et les autres en deux minutes. Qu'est-ce qu'on peut retenir autour de cette question de l'éducation?
Je dirais que le gouvernement congolais doit prendre conscience que nous sommes, nous, propriétaires de ces pays, propriétaires de ces peuples, propriétaires des ressources que nous avons et nous devons les transformer. C'est une recommandation de la Bible même, de certains livres saints. Voici la terre, assujettissez-le. C'est notre devoir. Et pour y parvenir, j'y reviens encore en disant que la roue a été déjà inventée. Ce qu'il nous faut, c'est seulement de faire l'échange culturel en matière d'éducation et sciences des technologies. Souvenez-vous, en 1986, il y a eu sommet en Addis Abeba sur le développement de l'Afrique. Qu'est-ce qu'ils ont conclu? Ils ont conclu que chaque pays devait faire créer des laboratoires en matière de recherche scientifique et en technologie. Mais depuis 1986, c'est pourquoi je rappelle ici que tous les pays qui ont les minéraux dans les sols et sous-sols, qui vivent que de ces minéraux, sont victimes de conflits et sont des pays pauvres, leur peuple est pauvre. Tandis que ceux qui vivent de la matière grise, c'est-à-dire l'intelligence, la technologie, sont des leaders. Alors, c'est à vous de savoir. Moi, je vous exhorte, je vous propose, je vous suggère que nous fassions l'échange culturel en matière éducative avec les autres pays.
Merci.
Afin que nous puissions sortir du chaos. Parce qu'on peut bien payer l'enseignant. Pour preuve, les projets d'université ont 2000 dollars qu'on me prenne, associés à d'autres choses qu'ils gagnent. Mais qu'est-ce qu'ils produisent? C'est-à-dire, les programmes posent problème.
Merci.
Nous ne pouvons pas nous voiler la face. Les programmes pose problème.
Merci beaucoup, Singi Pouloulou. Vous êtes opérateur éducationnel et promoteur d'école. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Merci aux auditeurs. Vous avez été nombreux. Parole aux auditeurs, vous retrouvez demain en direct de Goma au Festival Amoni avec Gilles Lungembo et Nico Kalambay. Quant à moi, je vous dis merci. Merci à Willem Lungamba qui était à la mise en onde de ce magazine. Merci à Tati Mapoukou Dilingedu qui était au standard ainsi qu'à la réalisation. Martin Seboujango a supervisé ce magazine. On va se retrouver en direct ici à Kinshasa à partir de lundi prochain. Demain, prenez rendez-vous avec Goma au Festival Amani. Mais n'oubliez pas que le programme c'est sur www.radiocapi.net. Merci et surtout à bientôt. Agréable moment sur Radio Capi. Au revoir.